Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Avec Zlatan Ibrahimovic, elle est l'autre star suédoise. Camilla Läckberg publie demain son 9e polar, Le Dompteur de Lion. La France est l'un des pays où elle rencontre le plus de succès. Bernard Lehu a rencontré la princesse des glaces et du crime en exclusivité à Stockholm. Reportage également à Fjällbacka, le petit port de pêche suédois, théâtre de tous les polars de Camilla Läckberg, et visité aujourd'hui par des touristes du monde entier. Nous vous offrirons bien entendu Le Docteur de Lyon dédicacé par l'auteur au 3210. Le génie de Picasso, lui, est plus que jamais célébré. À Paris, ses sculptures sont mises à l'honneur au musée Picasso. Au Théâtre du Châtelet, on peut revoir 100 ans après le rideau de scène créé par l'artiste pour le ballet Parade. Et à Marseille, le Mucem expose Picasso et les arts et traditions populaires. Nous suivrons notre guide préféré, Monique Younes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, demain paraîtra le 9e polar de Camilla Läckberg, Le Dompteur de Lyon, chez Actes Sud. Depuis son premier livre, La Princesse des Glaces, il y a 8 ans, la romancière suédoise est devenue l'une des stars mondiales de la littérature policière. Et la France est l'un des pays où elle a le plus de succès. 3,5 millions de livres vendus en exclusivité. Pour Laissez-vous tenter, vous l'avez rencontrée en Suède, à Stockholm.
Silhouette pulpeuse, chevelure brune, et oui, toutes les Suédoises ne sont pas blondes, les yeux bleus iceberg et le sourire généreux, Camilla Läckberg respire le bonheur. Bonheur personnel tout d'abord, à 42 ans, elle vient d'avoir avec son nouveau compagnon son 4e enfant, une fille, la petite Polly. Bonheur professionnel ensuite, avec ce 9e roman, l'un de ses plus réussis, on y reviendra tout à l'heure. Alors d'où vient la passion du crime chez Camilla Läckberg, elle qui paraît si équilibrée, si épanouie?
Déjà toute petite, j'avais cet attrait morbide pour la face sombre de la nature humaine et je m'intéressais aux meurtres, aux enquêtes criminelles et à tout ce qui pouvait faire peur. Je ne sais pas pourquoi.
Votre première lecture inoubliable de romans policiers?
Oh oui, je m'en souviens très bien. Mon père était un amateur de littérature policière. Il avait beaucoup de livres. Et le premier que j'ai lu, c'était Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Et après, je suis devenue accro à la lecture des polars.
Et c'est vrai qu'il y a un côté très traditionnel, on pourrait dire très cluedo,
oui,
les intrigues de Camilla Läckberg.
Ben oui, c'est un héritage d'Agatha Christie qu'elle revendique, un coupable à démasquer, une liste de suspects, une enquête, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais elle y a ajouté sa patte, ses ingrédients qui ont su séduire les lecteurs d'aujourd'hui et qui font la modernité de ces polars. À commencer par son couple, au sens propre, d'enquêteurs, l'inspecteur de police Patrick Hedström et sa compagne, l'écrivain Eric Falk, tiens, comme par hasard, dont Camilla Läckberg décrit par le menu la vie quotidienne et la vie de famille.
L'essentiel de nos vies est fait du quotidien. Ce ne sont pas les vacances, des fêtes ou encore des réunions occasionnelles. Non, la vraie vie, en fait, c'est celle de chaque jour. C'est pourquoi beaucoup de gens s'y reconnaissent. Et je pense qu'une partie de mon succès à l'étranger, au Japon, en France, en Pologne, en Australie, tient à ce couple suédois.
In Poland, in Australia, can relate to this Swedish couple.
Les lecteurs sont surpris de se reconnaître vraiment dans leur vie quotidienne, leurs sentiments. Tout ça n'est pas différent. Quand je suis allée au Japon, je ne m'attendais pas à ce que les lecteurs s'identifient à mon couple. Mais beaucoup de gens sont venus me dire qu'ils s'étaient vraiment reconnus à mon couple suédois.
Alors, outre ce duo très attachant, sur quoi d'autre repose le succès de Camilla Läckberg?
Je pense son thème de prédilection, la famille, ses secrets, ses turpitudes, ses déviances, le lieu du mal par excellence. C'est encore le cas dans le Dompteur de Lyon qui sortira demain, tandis que l'inspecteur Hedström enquête sur une série de disparitions de jeunes filles dont l'une est retrouvée, ça c'est la scène d'ouverture du livre, elle est retrouvée à demi-nue, énucléée, la langue coupée, les tympans percés. Erika Falk, de son côté, exhume pour son prochain livre, une vieille affaire. Une femme purge une peine de 30 ans de prison pour avoir tué son mari, un ancien dompteur de Lyon qui maltraitait leur fille, enchaînée dans une cave. Mais Erika est persuadée que cette mère porte un secret plus lourd encore. Oui, la maternité, voilà une autre constante dans l'œuvre de Camilla Läckberg.
Oui, parce que j'ai 4 enfants maintenant, beaucoup d'enfants. Être une mère n'a jamais été évident pour moi. Je pense que c'est l'un des rôles les plus difficiles que nous pouvons avoir. C'est très effrayant d'être une mère. Vous ne voulez pas causer du tort à vos enfants. Vous essayez juste de faire de votre mieux. Et c'est ce que je montre dans mes livres. Le besoin de protéger nos enfants est vraiment la plus forte de nos pulsions. C'est pourquoi je suis si fascinée par les affaires où les parents maltraitent leurs enfants, leur font du tort, ne les protègent pas comme votre instinct est supposé vous le réclamer. Voilà pourquoi je pense que c'est l'un des thèmes majeurs de mes romans.
Alors, les mères, mais les pères aussi, et surtout les enfants. Où sont, qui sont les vrais monstres ? L'intrigue développée par Camilla Läckberg dans Le Dompteur de Lyon va vous conduire jusqu'au bout de l'effroi.
Alors, justement, Bernard, comment s'y prend-elle ? Et vous a-t-elle confié quelques secrets de fabrication ?
Ah bah oui, l'interrogatoire a été très serré. Alors, je lui ai demandé comment naissent ces polars. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces livres ?
En général, deux choses. Le titre, il me vient très tôt et me donne l'idée, et aussi une image. Pour mon dernier roman, Le Dompteur de Lyon, j'avais cette image d'une fillette âgée de 8 ou 9 ans, enchaînée à un mur dans une cave. Je ne savais pas qui elle était, ni pourquoi elle était là. Mais j'ai commencé à y penser, et c'est comme ça qu'est venu le livre.
Mais toujours en premier, donc, à partir d'un titre.
Oui, c'est vraiment le titre qui me vient d'abord. Pour le prochain livre que je commence juste à écrire, j'ai d'abord trouvé un titre, La Sorcière. Donc maintenant, il me faut écrire un livre sur les sorcières.
Alors, c'est passionnant, elle part donc du titre, c'est ça qui est formidable, et on dirait que ça fait le déroulé ensuite du roman. Alors, dites-moi, comment Camilla Läckberg concilie-t-elle son travail d'écriture et puis sa vie de mère de famille, hein, puisque vous nous avez bien dit tout à l'heure qu'elle avait 4 enfants.
4, oui, je confirme. Eh bien, tout a l'air de se passer plutôt pas mal.
En fait, j'écris aux heures de bureau, quand mes enfants sont à l'école. En ce moment, avec le bébé, on doit se relayer avec mon compagnon. Il s'en occupe pendant 3 heures, durant lesquelles j'écris, puis je prends le relais 3 heures, et il travaille à son tour. On se partage beaucoup.
Est-ce que vous avez des carburants quand vous écrivez ?
J'ai besoin de mon café. J'ai essayé d'écrire après avoir bu du vin rouge, c'était affreux. J'ai cru que ce que j'avais écrit était génial, mais quand je me suis relu le lendemain, ce n'était pas bon. Donc j'écris seulement après avoir bu du café.
Oui, je confirme, quand on s'est vu, elle était en train de boire du café.
J'ai bien compris que vous enquêtiez sur ce qui pouvait la motiver. Alors, on retrouvera dans quelques instants Camilla Läckberg et nous irons dans le petit port de pêche de Fialbaca, où se déroulent toutes ces intrigues, un lieu devenu absolument mythique pour ses lecteurs. Et pour le moment, on vous fait gagner en avant-première Le Dompteur de Lyon, publié chez Actes Sud et dédicacé par l'auteur si vous répondez à la question de Bernard.
Ben oui, je suis allé à Stockholm avec dans la valise les livres hein, pour lui faire signer pour vous.
Vous voulez que je vous plaigne un peu, c'est ça ?
Ah non,
si, j'ai senti comme un désir de reconnaissance.
Un bonheur. Alors, la question, quel est le pays d'origine de Camilla Läckberg ?
Réponse au 3210, on la retrouve dans quelques instants avec Bernard et avec tous ces livres qu'il a transportés à travers toute l'Europe. Et puis surtout, on trouvera aussi Isabelle Morini-Bosse qui nous parlera de nos résultats d'audience de la soirée télévisée.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les audiences de notre soirée télé avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosse.
Eh bien, le feuilleton avec Mathilde Seigné, Sam est en tête sur TF1. 6 500 000 téléspectateurs quasiment, c'est à peu près 800 000 de moins que la semaine dernière.
Ça
mais
reste
le contexte,
énorme, hein.
Oui, ça reste énorme et il faisait nettement meilleur temps. En deuxième position, Rizzoli & Nice sur la 2, 4 200 000 téléspectateurs et près de 17% du public sur France 2. C'est étal, ça garde tous ses fidèles. Et en troisième position, Prometheus, je le prononce à la latine, hein, sur M6, 13% du public et 2 900 000 téléspectateurs. Sur D8, il y avait Le Dernier Rempart et c'est en tête des audiences côté TNT, 920 000 téléspectateurs. Et on souligne une fois de plus les bonnes audiences de C'est dans l'air, votre quotidienne, à 17h45 sur France 5. C'est peu de dire que vous allez leur manquer à France Télévisions, puisque TF1 a officialisé votre arrivée sur LCI à la rentrée pour, je cite, une émission quotidienne en fin de journée. Comme à la douane, je vais vous demander quelque chose à déclarer.
Bah oui, je suis ravi. Et on va préparer la suite maintenant.
Voilà, j'en profite pour signaler les deux autres prises de guerre, si j'ose dire, connues de TF1.
Mais il faut préciser qu'Yves reste avec nous.
Ah, la question ne se pose même pas.
Il faut mettre les points sur les passés de vous.
Ce qui est à la radio reste à la radio. J'en profite pour signaler donc les deux autres prises connues de TF1. Yann Barthès, que Canal Plus souhaitait garder au point d'accepter que son budget ne soit pas revu à la baisse, mais pas à la hausse non plus. On sait qu'il aura une quotidienne sur TMC et une hebdo en deuxième partie de soirée sur TF1. Ce pourrait être le samedi face à Laurent Ruquier. TF1 a officialisé hier son arrivée et elle devrait annoncer également ce matin celle du journaliste Grégoire Margoton, transfuge de Canal Plus lui aussi. Il commentera son premier match le 30 mai France-Cameroun. Il sera aux côtés de Lisa Radzou. Voilà, c'était la suite du mercato. Et bien évidemment,
si vous m'autorisez,
pas la
brochette,
fin.
Oui. Exactement. Voilà. Merci Isabelle. Alors Bernard Lehu, à la veille de l'apparition du nouveau polar de Camilla Läckberg, le Dompteur de Lyon, vous avez donc rencontré en exclusivité à Stockholm la princesse des glaces et du crime.
Oui, et alors toutes ces intrigues, et ça ses lecteurs le savent, ont la particularité de se dérouler dans un petit port de pêche de la côte ouest de la Suède, Fjällbacka, à peine 1000 habitants, là où est née Camilla Läckberg. Alors pourquoi un lieu, ce lieu unique comme décor de ses romans ?
Parce que j'ai grandi là-bas. C'est un environnement que je connais du fond de mon cœur et dans ma tête. Je peux le décrire comme je ne pourrais le faire pour aucun autre endroit au monde.
Alors vous, vous êtes heureuse, mais qu'en pensent les habitants de Fjällbacka de voir comme ça leur petite ville paisible devenir le lieu du crime et de la perversion ?
J'étais très anxieuse quand j'ai publié mon premier livre. Je me disais, oh mon Dieu, ils vont m'en vouloir, tuer des gens ici dans ma ville natale. Mais non, en fait, ils ont aimé mes livres dès le début et ils sont fiers que les lecteurs découvrent leur magnifique petite ville. Je suis heureuse que des touristes aujourd'hui viennent du monde entier pour voir cette superbe petite ville. C'est vraiment très beau et unique. Je suis très fière que les habitants de Fjällbacka puissent partager ça avec tant de gens.
Very beautiful and very unique. So I'm very proud that I've been able to share this with so many people.
Et comme les nombreux touristes qui visitent désormais Fjällbacka, vous avez fait vous aussi, Bernard, le pèlerinage Läckberg.
Oui, et alors, mais c'est vrai que ce petit port est absolument charmant, on y est, et pittoresque, avec ses maisons de bois colorées, le cri des mouettes, le vent dans les haubans, la corne de brume, la place Ingrid Bergman, avec le buste de l'actrice, car elle y a longtemps possédé une maison là-bas, et puis les 365 îles et îlots au large de Fjällbacka, c'est le plus bel archipel de la Suède. Et alors, l'Office du tourisme, figurez-vous, propose désormais une visite guidée du village sur les traces de l'enfant du pays et de ses polars. Et devant l'une des plus vieilles maisons de Fjällbacka, Åsa, la guide, vous apprend que Camilla n'est pas allée chercher très loin le nom de son héroïne, Erika Falk.
Falk était la plus grande famille de Fjällbacka au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et Falk, le patriarche de la famille, a vécu ici de 1746 à 1809. Il était pêcheur, mais aussi affréteur. Il possédait plusieurs bateaux, et comme il y avait d'énormes quantités de harengs à cette époque, Olof Falk faisait cuire les poissons et en récupérait l'huile. Il est allé vendre cette huile à la ville de Paris pour l'éclairage public. C'est drôle parce que quand j'ai des touristes français, ils me disent que je plaisante, que ce n'est pas vrai. C'est pourtant vrai, Paris a bien été éclairé grâce à l'huile de hareng de Fjällbacka autrefois.
Voilà,
c'est incroyable.
Alors Camilla Läckberg a quitté Fjällbacka à 18 ans, elle revient régulièrement et sa mère, Gunnel, y vit toujours, elle est intarissable sur sa fille.
Elle a toujours été passionnée par les livres et la lecture. Quand les amis de Camilla venaient à la maison pour jouer, elle venait se plaindre à moi en disant « ce n'est pas drôle, elle lit tout le temps, on ne peut rien faire avec elle ». Nous avons essayé de lui faire pratiquer d'autres activités, l'équitation, la voile, le windsurf, mais tout a échoué. Elle est toujours retournée vers sa passion de la lecture et de l'écriture. Elle a commencé très jeune à écrire des histoires assez noires, en particulier à l'école. Son instituteur m'avait convoqué un peu inquiet pour me demander si Camilla avait des problèmes à la maison, parce qu'il trouvait ses rédactions vraiment très spéciales. Je n'ai jamais compris d'où lui est venue son attirance. pour ce genre d'histoire.
En suédois, dans le texte, hein, vous aimez ça?
Alors, j'adore, j'ai l'impression d'être à l'Eurovision.
Et je dois remercier Patrick Faure, un Français qui vit et travaille à Fjällbacka. Ah oui, c'est lui qui a joué les interprètes avec efficacité et gentillesse auprès de maman Läckberg. Oui. Et alors, figurez-vous que c'est un auditeur fidèle de RTL. Il vous écoute tous les matins sur Internet, Yves Calvi. Et il m'a chargé de vous transmettre son salut d'expatrié.
Cher Patrick, nous vous transmettons toutes nos amitiés et on est extrêmement fiers de nous savoir écouter par vous comme ça, au fin fond de la Suède, ce qui dans ma bouche n'est rien de désagréable.
Alors à propos de français, eh bien on va laisser le mot de la fin à Camilla Läckberg. Elle a étudié notre langue pendant 6 ans, elle adore la France, mais que reste-t-il de son français ?
Oui, j'étudiais français à l'école, mais c'est passé 20 ans et j'ai oublié beaucoup. Je parle un petit peu.
Merci beaucoup pour votre fidélité.
Voilà, pas mal. Hein. Camilla Läckberg, qui publie donc demain son nouveau excellent polar, Le Dompteur de Lyon, chez Actes Sud, entretien retrouvé sur RTL.fr.
Ainsi, cher Bernard, qu'une vidéo tournée avec Camilla Läckberg à Stockholm. Dans un instant, nous allons parler Picasso. Picasso superstar à Paris et à Marseille, avec notre guide préféré, je vous le disais en début d'émission, Monique Younes.
RTL bouge. RTL matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Monique Younes, pas moins de 3 expositions célèbrent Pablo Picasso en ce moment. Nous allons commencer par celle qui vient d'ouvrir ses portes au Mucem à Marseille et qui a pour titre « Un génie sans piédestal, Picasso et les arts et traditions populaires ».
Oui, et même ceux qui ne connaissent pas l'intégrale de l'œuvre de Picasso ont en mémoire ses acrobates, ses guitaristes, ses toreros, ses femmes parées de coiffes catalanes ou arlésiennes, ses détournements d'ex-voto. Or, voilà une chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire. Picasso était passionné par les arts populaires. D'ailleurs, sa toute première peinture est une scène de corrida qui représente le picador dans l'arène avec quelques spectateurs dans les gradins. Œuvre exposée en France pour la première fois, m'a dit la commissaire Émilie Girard devant la toile.
Le petit picador jaune, premier tableau connu, répertorié de Pablo Picasso, qu'il peint alors qu'il a 8 ans. Donc voilà une œuvre presque goyesque avec les personnages, les spectateurs de la corrida qui sont là installés. Alors Picasso dit qu'il a mis toute sa vie à apprendre à peindre, à dessiner comme un enfant, puisque quand il était petit, il était Raphaël. Et je trouve que ce tableau-là le montre bien, voilà, ce génie très très précoce.
Picasso n'exagère pas quand il dit qu'à 8 ans, il peignait comme Raphaël. Il avait son père comme professeur de peintre. Donc son père s'appelait José Ruiz Blasco. Lui-même peintre naturaliste, que le petit Pablo qualifiait de peintre de poils et de plumes, m'a raconté Émilie Girard.
Don Ruiz Blasco, il apprend à Pablo Picasso à peindre en lui disant « peins des pattes de pigeon et ne t'arrête que quand ses pattes sont reproduites à la perfection ». Donc le motif du pigeon chez Picasso, il a une antériorité très très importante. Donc on a ici le motif de la colombe qui est représenté à travers les sculptures. Il les fait de deux manières. Soit il prend une bouteille céramique avant cuisson, il la plie en 2 temps 3 mouvements, c'est vraiment assez incroyable. Il donne 2-3 coups de stylet, il peint, il cuit. Soit il prend les feuilles de céramique plate et il les plie façon origami.
Prenez le temps de vous attarder devant les films de l'exposition au Mucem pour voir la dextérité époustouflante de Picasso dans tous les domaines. En 3 étirements, il transforme les bouteilles en terre cuite en statues grecques. Ses empreintes sont encore visibles sur certaines d'entre elles exposées au Mucem, comme s'il venait à l'instant de les réaliser.
Alors on retrouve, paraît-il, aussi les empreintes sur certains de ses tableaux parce qu'il retravaillait la peinture au pouce. Hein.
Mais oui, et quand il se met à fabriquer des jouets pour ses enfants avec 2 planches de bois et un bout de métal qu'il plie, on atteint là la simplicité, valeur en tout supérieure. Il faut dire que pour lui, tout était simple.
D'abord, je commence avec des feuilles de papier que je plie, replie, recoupe et replie, n'est-ce pas ? Je les fais en tôle, un peu plus solide, et ça fait des choses que je garde. Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, Picasso espiègle. C'est peut-être le côté le plus sympathique du personnage quand il détourne les objets de la vie courante. Picasso disait que les matériaux lui faisaient signe. Alors quand il voit une selle de bicyclette et un guidon, il lui apparaît tout de suite une tête de taureau. 2 petites voitures abandonnées par son fils Claude deviennent tout de suite une tête de guenon. Écoutez la suite avec Émilie Girard.
Donc Claude s'est fait chipper ses petites voiturettes par son père qui a rajouté 2 anses de tasse à thé pour faire les oreilles, une grosse jarre pour faire le ventre de la guenon et un amortisseur de voiture pour faire sa queue. De la même manière qu'avec la chèvre, on retrouve ce jeu là aussi sur les objets avec le panier qui sert de panse, les bouteilles de lait pour faire les pies. Donc là on est vraiment dans la réutilisation de l'objet quotidien pour la création.
Alors, des exemplaires de la Guenante non son petit et de la chèvre, vous les verrez au Mucem à Marseille, mais aussi au musée Picasso à Paris, qui s'est intéressé spécifiquement à l'œuvre sculptée de Picasso dans une magnifique exposition Picasso sculpteur. Parce que si Picasso a peint dès l'âge de 8 ans, il a réalisé sa première sculpture à 11 ans, c'est-à-dire en 1902, m'a précisé Virginie Perdrizo, responsable des sculptures au musée Picasso.
On a la chance de posséder au musée la toute première sculpture répertoriée de Picasso, qui est une petite femme assise de 1902 que Picasso va modeler à Barcelone en terre crue. C'est une première tentative assez modeste et qui s'inspire des santons qu'on peut voir dans les crèches.
On lui connaît combien de sculptures ?
300 modèles. Mais ce qu'on découvre au musée Picasso, c'est que soit il pouvait faire un modèle unique, soit un modèle multiple, mais... Par exemple, il faisait 9 et il arrivait à rendre ses 9 uniques en les peignant, par exemple, de manière très différente.
C'est ce qu'on appelle un génie.
Je cherchais le mot. Et pour finir, une excellente nouvelle. Vous pouvez voir la plus grande toile jamais peinte par Picasso. Il vous suffit de vous rendre au Théâtre du Châtelet. Événement exceptionnel et gratuit jusqu'au 15 mai. Le Théâtre du Châtelet expose le rideau de scène peint en 1917 par Pablo Picasso pour Parade, le ballet russe de Serge de Diaghilev, qui s'est joué à ce même théâtre du Châtelet il y a 99 ans. Allez-y, c'est vraiment exceptionnel.
Merci, chère Monique Younes. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné dédicacé le dernier roman policier de Camilla Läckberg.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je crois qu'il ne faut pas tergiverser. Hein. Quel est le pays d'origine de Camilla Läckberg, cher Bernard Lehu ?
Il me semble bien qu'elle est suédoise.
Il me semble bien que vous avez raison et que si vous nous avez appelé au 3210, et voilà, vous aurez gagné donc Le Dompteur de Lyon, son dernier livre dédicacé, paru aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Bonjour Julien.
Ah, mais j'ai compris à l'instant, dis donc.
Ben voilà.
LCI, ça veut dire le Calvi, il arrive. Je cherchais depuis, mais je vous assure, des semaines, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, voilà. LCI ?
C'est ça, le Calvi, il arrive. Et alors, vous savez quoi ?
Non.
Il ne faut quand même pas abuser, hein, 20h50 sur des 8. Merci. Enfin, 20h50 ou 21h10 ou 21h20.
Plutôt sur un petit 21h15.
Oui, parce que vous avez des déports plus importants que les miens, la télévision.
Ouais, ce soir, écoutez, c'est la première de cette émission. Ah, et voilà. Grâce à vous, Yves.
Que nous avons initié.
Puisqu'on avait testé et ça, oui. Isabelle s'en rappelle. C'est des vedettes qui règlent des problèmes. Et c'est elles qui prennent le téléphone pour essayer de négocier. C'est sur D8 ce soir. Et vous l'aviez fait, vous l'aviez dormant.
Dans le grand studio.
Exactement. Donc voilà, on va voir ça.
On commence quand ?
Ça j'aimerais bien, vous voyez. J'aimerais bien finir l'année comme ça avec vous.
Ich bin partant.
Allez, ich bin moi aussi.
Allez.
Ich bin témoin.
Eh bien, ich bin Isabelle, bonne journée.
Ouais, bonne émission.
Vous écoutez RTL.